Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer que nous ne sommes pas ici pour jouer à l'église, nous sommes ici pour vivre un moment intense, face à face, cœur à cœur avec Jésus. Est-ce que vous avez envie d'être ça aujourd'hui? On n'est pas juste venu ici pour revoir David, ça fait 2 mois qu'on l'a pas vu, là, OK, salut Dave. Non, on est ici pour Jésus. On est ici pour sa présence, on est ici parce qu'on a soif, on a faim de lui, on veut recevoir quelque chose de sa part. On veut qu'il nous parle, on veut que notre cœur résonne, vibre au son de sa voix et au son de sa parole. Ce matin, je t'invite à enlever les murs et les réticences qui pourraient t'empêcher de recevoir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, on va prier? On va demander au Seigneur qu'il nous visite, qu'il nous parle, qu'il nous touche ce matin. Seigneur, je te prie pour cette église, je te prie pour ce moment que nous allons partager ensemble dans les prochaines minutes. Je prie pour ton Saint-Esprit. Je prie pour ton action puissante. Je prie que personne ne garde son cœur fermé dans ces instants où nous sommes cœur à cœur, face à face devant toi. Je prie que ta parole résonne en nous, qu'elle porte un fruit pour l'éternité. Seigneur, pour la personne qui est découragée, qu'il puisse trouver de l'encouragement dans ce lieu. Pour la personne, Seigneur, qui ne te connaît pas encore personnellement, je prie que ce jour soit un jour de salut et de nouvelle naissance. Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Parle-nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Je peux s'asseoir. Le titre de mon message ce matin est le suivant. Dieu prendra soin de toi. On ne sert pas un Dieu qui est indifférent à nos vies, indifférent à ce qui se passe. On sert un Dieu qui nous connaît, qui nous aime et qui veut prendre soin de chacun d'entre nous. Dieu est intéressé par ce que tu vis. Dieu connaît ta situation. Dieu sait ce qui se passe dans ta santé, dans ta famille, dans tes finances. Dieu veut prendre soin de toi. Le texte qu'on va regarder ce matin, c'est 1 roi 17. Et on va le parcourir aujourd'hui. Il y a comme 3 scènes qu'on retrouve durant dans ce texte-là de 1 roi 17. Et ça se passe à un moment où le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu. Et comme conséquence, Dieu annonce par la voix de son prophète Élie un long moment de sécheresse, un long moment de douleur pour le peuple, un long moment de difficulté où le peuple, où il va pas pleuvoir pendant longtemps et le peuple va souffrir de tout ça à cause de leur éloignement de Dieu. Et on voit dans ce texte-là un contraste entre l'annonce du malheur et on va voir ensemble comment Dieu prend soin de nous même dans les moments difficiles. 1 roi 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Acab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur et vivant, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, « Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Et on voit dans ce texte-là 2 scènes parallèles. Première scène, une annonce de malheur incroyable, des années de sécheresse. Et en même temps, Dieu va dire à Élie, « Va à tel endroit, près d'un torrent d'eau, je vais prendre soin de toi, je vais te nourrir, tu vas avoir à boire. » Et il dit même, on va y revenir, mais c'est des corbeaux qui vont te nourrir. On va y revenir là-dessus dans un instant. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit des moments sur la planète Terre, des moments troubles, des moments où il y a des difficultés importantes et massives partout sur la planète. On peut penser pandémie, maladie, guerre, tremblement de terre, les tempêtes tropicales, ouragans, typhons, tornades, inondations. À Baie-Saint-Paul, il y a eu une inondation majeure, comme vous savez, dernièrement, et j'ai pu aller là-bas une semaine après l'inondation et de marcher dans les rues où ça s'est produit, de parler avec les gens. Je suis entré dans des maisons où il y avait jusqu'à 6 pieds comme ça, un cerne. Il y a eu 6 pieds d'eau. Des personnes ont tout perdu. Des gens qui étaient parfois pauvres, qui avaient rien, il y avait très peu dans la vie, ils ont tout perdu, ça, des paix de glaise, de boue par terre. Je suis retourné même récemment, puis ils sont en train de démolir, d'arracher, d'essayer de trouver des solutions pour reconstruire et rescaper ce qui est possible. Ça a été vraiment quelque chose de très, très, très grave. J'ai pu parler avec des gens sur place. Il y a un monsieur qui me parlait encore traumatisé par l'événement juste une semaine après, puis il me montrait sa clôture derrière chez lui qui avait été arrachée. Puis il m'expliquait que pour fuir l'eau qui montait, pour pas se noyer, il a dû arracher des panneaux de bois de clôture pour passer et se sauver de l'eau qui montait et qui allait l'emporter. Et on vit dans un monde où ça va pas super bien, où le niveau d'angoisse et de stress de la population a jamais été aussi haut. On peut penser aussi aux changements climatiques, aux espèces animalières qui disparaissent chaque jour, la déforestation, l'agrandissement de la pauvreté, des inégalités. Les incertitudes économiques également, jamais l'épicerie n'a coûté aussi cher. L'essence, les taux d'intérêt qui augmentent, le pouvoir d'achat qui diminue, le taux d'endettement qui augmente. Et ça, c'est sans compter les angoisses internes que nous vivons. Oh, mais merci d'avoir été là ce matin. Soyez bénis, bonne semaine, à la prochaine. Non, il y a de l'espoir. Mais quand même, le sentiment global en ce moment est très lourd. Beaucoup de gens sont pris par cette angoisse-là, par ces problèmes-là, par ces difficultés-là. Il y a une profondeur dans l'angoisse, c'est palpable. Et en même temps que tout ça prend place sur la terre, il y a Dieu qui dit « Inquiète-toi pas, je vais prendre soin de toi. » Contraste, des temps troublés, mais un Dieu qui nous assure qu'il va prendre soin de nous, même dans ces moments difficiles. Dieu veut te dire ce matin qu'il va prendre soin de toi, qu'il ne va jamais te délaisser, qu'il ne va jamais t'abandonner comme on l'a chanté aujourd'hui. Verset 5, « Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouvait en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. » Dites avec moi, « Aïe aïe! » Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Quel texte incroyable! Élie s'en va, il écoute la parole du Seigneur qui lui dit « Cache-toi, va à tel endroit, se cacher. » Pourquoi? Parce qu'il était un peu responsable aux yeux des gens du malheur qui prenait place. Donc, il va là-bas sur le bord d'un torrent. C'était pas la rivière Saint-François, mais bon, c'est un torrent quelconque. Et là, il peut boire. Et matin et soir, Dieu va utiliser des corbeaux pour lui apporter pain et viande. Aïe, aïe! Quel texte incroyable! Ça me dit aujourd'hui quelque chose. Ça me dit qu'il n'y a rien qui va empêcher Dieu de prendre soin de moi. Que Dieu est capable de pourvoir à mes besoins, même si toutes les solutions humaines semblent pas marcher, Dieu, s'il le faut, va envoyer un corbeau avec de la bouffe pour moi. Je ne sais pas si ça peut être d'autres sortes d'oiseaux qu'un corbeau, j'imagine que oui, mais c'est incroyable. Dieu, combien de fois dans ma vie, Dieu a pris soin de moi. Pas parce que je suis gentil, parce que je suis fin, parce que je le mérite. C'est juste parce qu'il m'aime. C'est sa grâce. Combien de fois Dieu a pris soin de moi? Je pourrais vous compter des dizaines d'histoires où la provision de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Est-ce que vous avez déjà vécu la provision de Dieu? Dieu qui pourvoit vos besoins. Tu m'as voir ta main si tu as déjà vécu ça dans ta vie. Plein de mains qui se lèvent. Je vous compte une shot. Je pourrais vous en compter plein, mais on prendra un café pour les autres. J'étais pasteur à Montréal et je déménageais dans Charlevoix pour démarrer une église. Et on avait un tout petit bébé et on vendait notre condo. Et on dit « Seigneur, tu vas mettre ta main, tu vas bénir tout ça. » Et lorsqu'on met le condo en vente, on reçoit une feuille, un papier officiel de la copropriété qui nous dit que chaque copropriétaire doit verser 20 000 $ pour refaire la toiture et le revêtement extérieur qui a été mal fait. Et la personne qui le fait n'est pas solvable, a fait faillite, on ne sait plus où. Donc, tout le monde doit payer 20 000 $. Et là, je commence mes visites. Et là, il faut que je leur montre la feuille de copropriété. Il faut que je leur dise, voici vos condos, nanana. En passant, il y a cette feuille-là. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'handicapant pour vendre ce condo-là. Et nous, on ne voulait pas retarder notre départ. Il y a un petit groupe, un noyau là-bas qui nous attendait, une douzaine de personnes qui nous attendaient pour démarrer une église avec eux. Et alors, on partait, on allait visiter des appartements dans Charlevoix. Mais ce qu'on voulait surtout pas, ce qu'on pouvait vraiment pas, c'était payer l'hypothèque du condo et un appartement, un loyer en plus. C'était vraiment impossible, impensable pour nous. Et là, on visitait, puis on savait pas trop comment Dieu allait intervenir, mais on faisait confiance au Seigneur quand même. Et à un moment donné, on visite un appart, et la personne nous dit, « Ah, ça vous intéresse-tu? » On dit, « Ouais, ça nous intéresse. » C'est juste que là, on explique un peu la situation. La personne nous dit, « Mais écoute, je voudrais tellement, c'était comme une sous-traitance de bail, je voudrais tellement que tu signes le bail, puis que tu prennes, puis que tu me délivres de ça, que tu me libères de cet appartement-là, que je t'offrirais 3 mois gratuits de loyer. » Je dis, ah, wow, hey Seigneur, tu prends soin de nous, c'est super. Alors on signe, on arrive dans Charlevoix, on s'installe, mais le condo est toujours pas vendu. Les visites, l'agent d'immeuble n'a jamais travaillé aussi fort dans sa vie. Les visites s'enchaînent. C'est pas comme en 2022 que tu, à peine que t'as tchoum, que tu mets ta maison à vendre puis elle se vend, là. C'était vraiment plus compliqué que ça à l'époque. Et là, le temps passe, les mois passent, et à un moment donné, le premier mois passe, OK, on est correct. Deuxième mois passe, là, on commence à être stressé un peu. Et vers la fin, souvent, le Seigneur agit vers la fin. Si vous connaissez Dieu, là, on ne sert pas un Dieu full d'avance. C'est pas un Dieu, regarde, c'est pas comme je vais pouvoir pour toute ta vie, tiens, voici 1,2 million de dollars, organise-toi avec ça. Non, c'est souvent à la dernière minute. Et là, on stressait un peu. Puis là, pourquoi? Parce que Dieu veut tester notre foi. Dieu veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Comment? On ne sera pas capable, Seigneur, je suis pasteur d'une église de 10 personnes. Même si donner leur dîme, Seigneur, c'est 10 personnes. Je n'ai pas un salaire à tout casser. D'ailleurs, je commençais la photographie à l'époque pour essayer de trouver une façon de survivre. Et Dieu a pourvu. On a pu vendre le condo, mais on l'a vendu 20 000 de moins que prévu. Mais on l'a vendu et on n'a jamais eu besoin de payer deux hypothèques ou deux loyers en même temps. Dieu a été fidèle cette fois-là. Il a pris soin de nous. Petit clin d'œil de Dieu. Mais je pourrais vous compter des dizaines et des dizaines de clins d'œil de Dieu comme ça. Juste pour te dire aujourd'hui que peu importe la situation de ta vie, Dieu peut prendre soin de toi. Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Il est digne de confiance. Tu peux t'appuyer sur lui. Est-ce que je peux entendre un amen?
Amen.
Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse. Dieu prend soin de toi conformément, pas à ta gentillesse, ta sainteté, mais à sa richesse. Et on sait que Dieu possède toutes les richesses du monde entier. Alors là, on a vu cette scène-là, la première scène où Dieu pourvoit pour Élie par des corbeaux. Donc, la prochaine fois que tu manques de quoi manger, là, mets donc une mangeoire à oiseaux dehors, là. On ne sait jamais. Verset 8, deuxième scène dans notre texte. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. On se rappelle, le torrent est sec, il n'y a plus d'eau. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. » Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Dites encore « Wow! » Je ne sais pas si tu peux apporter le sac, s'il vous plaît. Dieu dit à Élie, « Le torrent est sec, va à tel endroit, il y a quelqu'un qui va pourvoir à tes besoins. » Il devait se dire, « Ah ouais, il va m'envoyer vers quelqu'un de riche, vers quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, qui va prendre soin de moi. » Genre un genre de Bill Gates moderne qui peut prendre soin de toutes mes affaires, là. Mais Dieu envoie Élie vers une veuve qui est extrêmement pauvre. Quand je dis le mot extrêmement pauvre, vous comprenez que ce n'est pas exagéré. Parce qu'il ne restait rien à manger chez eux. Ce n'est pas rien à manger comme quand l'ado dit « Ah, il n'y a rien à manger! » Hein? Des fois, il y a des maris qui disent ça aussi « Il n'y a rien à manger! » Monsieur, va acheter de la bouffe, là. Elle... Il n'y avait plus de Kraft Dinner, il n'y avait plus de beurre de peanut, il n'y avait pas de pain, pas de lait, pas d'œuf, un petit peu d'huile, un petit peu de farine. C'était son dernier repas. Elle allait faire un genre de petit pain, là, le manger puis mourir. Puis Dieu a choisi d'envoyer Élie vers elle. Des fois, Dieu a un humour assez spécial. En envoyant Élie vers elle, Dieu a sauvé Élie, elle et son fils. Et Dieu peut pourvoir à tes besoins de façon incroyable. De façon qu'on humainement, ça ne serait pas le plan qu'on prendrait nécessairement. Nous, on aime quand c'est bien organisé, mais des fois, Dieu envoie un corbeau ou une veuve qui est littéralement à un gâteau vachon de mourir. Ça, c'est de l'huile au basilic, mais elle, c'était pas au basilic, son huile. Dieu veut prendre soin de toi d'une façon extraordinaire. Dieu veut accomplir dans ta vie le miracle de la provision. Une phrase clé dans ce texte-là, qui est une clé pour chaque croyant, chacun d'entre nous, on va le voir ensemble au verset 13. Elle lui dit, « N'aie pas peur. » Élie lui dit, « N'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, « Prépare-moi d'abord! » Et c'est pas ici, on n'a pas un homme de Dieu qui est imbu de lui-même et qui veut profiter d'une veuve. Ici, il y a Dieu qui orchestre un test pour cette femme-là. Alors qu'il ne reste plus rien, il va dire « Prends ce que tu as et donne-le pour Dieu. » Tu n'as plus rien, prends ce que tu as, donne-le. Et lui, il représente Dieu. « Donne-le pour Dieu. » Est-ce que Dieu est en premier dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que Dieu est l'objet de ton amour? Est-ce que Dieu est l'objet de ton adoration? Est-ce qu'il est le premier dans toutes les sphères de ta vie? J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu bénit alors qu'on le place avant toute chose, alors qu'on le place en priorité absolue dans notre vie. Est-ce que Dieu est premier dans ta vie financière? Vous savez, on vit une époque pas facile au niveau des finances, comme je le disais au début. Où plusieurs d'entre nous, vous le savez, on est serrés, c'est pas facile. Il y a des défis particuliers à notre époque. Et ce qui pourrait sembler logique humainement, c'est de garder pour soi le plus possible. De pas donner, de pas partager, parce que là, on manque, on en a moins, ça coûte plus cher, fait qu'on en garde pour nous. Et oui, il y a quelque chose de biblique de mettre de côté pour les mauvais jours. Ça, c'est dans la Bible, ça aussi. Mais il y a quelque chose qui pourrait être humainement, oh, je vais moins donner, je vais moins participer, je vais garder plus pour moi. Avant d'aller plus loin dans un prochain texte, j'aimerais faire une parenthèse et dire un immense merci à chaque homme, femme, jeune dans ce lieu qui donnait ici à l'Église fidèlement, généreusement. La Bible nous enseigne à donner avec discrétion. Elle dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite quand tu donnes. Hein, pour pas comme genre, moi je donne, regardez-moi. Et la plupart d'entre nous, on donne comme ça. On donne personne laissée. C'est discret, c'est entre nous et Dieu. Puis c'est parfait, continue à faire ça. Mais ce matin, je vais prendre un petit moment pour te dire merci. Merci. Personne ne te voit, et c'est correct, mais Dieu te voit. Et je veux te dire merci aujourd'hui. Grâce à ta participation dans cette église existe, littéralement. Il y a une équipe pastorale. Il y a un super bâtiment, chauffé et climatisé. Il y a des activités pour les enfants, pour les jeunes adultes, vendredi soir, super soirée jeunes adultes ici, j'ai entendu. Grâce à ce que tu fais, grâce à tes dons, on peut envahir la ville avec l'amour de Jésus. J'aimerais te dire merci ce matin. J'aimerais dire aux gens qui seraient ici, qui ne donnaient pas encore ou qui donnaient très peu par rapport à ce que Dieu vous appelle à faire, j'aimerais t'encourager à embarquer avec nous. Embarque avec nous autres. Participe avec nous. Deviens généreux avec nous pour cette église. Parce que vous savez, cette église-là, c'est formidable parce qu'on vit presque 400 personnes, etc. Et quand on se compare des fois avec d'autres églises, on peut dire « Wow, c'est beau » et « Oui, c'est beau ». Mais j'aimerais vous dire, nous, ce n'est que le début. Dieu n'a pas fini d'agir ici. Ce n'est pas le temps de dire « Ah, oh, c'est assez, là, c'est le fun, on est rendu à deux réunions, c'est parfait comme ça. » Non! Il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il faut les rejoindre avec l'Évangile. Il faut se mobiliser ensemble comme Église. Pensez-vous que ce beau bâtiment-là va faire la job pendant bien longtemps? Il ne faut pas! Sinon, c'est un échec. Mais suivez-vous, on aurait beau le remplir deux, trois fois, à un moment donné, il va falloir plus grand. Le pasteur est d'accord. Que Dieu renouvelle notre passion, que Dieu renouvelle notre engagement, que Dieu nous rappelle de le placer en premier en toutes choses. Je vais vous lire un texte qui nous parle justement de ce cœur généreux. Dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a décidé en son cœur. » Aujourd'hui, je ne suis pas en train de te dire combien donner. Je suis en train de te dire de donner et de demander à Dieu qu'il te dise combien donner. Tu réfléchiras à tout ça plus tard, là, mais c'est à toi de décider dans ton cœur. C'est un engagement spirituel. Ensuite, que celui qui donne, donne sans regret. Donne pas à reculons, donne pas à regret, donne pas en murmurant. Tu vas perdre tes bénédictions. Donne sans regret, ni contrainte. Que personne ici ne se sente écrasé, forcé, obligé. Tu peux venir ici à l'église toute ta vie sans rien donner, puis tu es le bienvenu. Tu vas pouvoir avoir accès au pasteur, à toutes les activités de l'église. Il va juste te manquer un bout de la vie chrétienne. Mais tu peux donner sans regret, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on donne, on le fait secrètement, discrètement, mais avec joie. Seigneur, des fois, c'est pas facile, mais Seigneur, je donne avec joie. Je te redonne. Quand je parle de donner, oui, donner pour l'Église, le service, l'avancement du royaume de Dieu, mais d'être sensible aussi aux gens qui nous entourent. À ton travail, les gens qui habitent pas loin de chez vous, t'entends dire que quelqu'un perd sa job, t'entends dire que quelqu'un vit un moment difficile, sois prêt à obéir, à donner, à participer, à partager ce qui est à toi. Dieu bénit ceux qui donnent, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. Celui qui pourvoit tes besoins, c'est Dieu. C'est pas ton employeur. C'est pas ta job que tu t'es créé, ta business. C'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Quand tu comprends ça, ton paradigme change. Que tu perds ta job ou pas, qu'il y ait des fluctuations dans le monde, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Et il veut pourvoir à tous tes besoins. Et non seulement il veut pourvoir tes besoins, mais la suite nous dit ceci, « Et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits. Il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. C'est ce que Dieu veut faire. 1 Timothée 6, 17 nous donne des recommandations sur des choses qu'on doit annoncer en tant que pasteur, qu'on doit annoncer aux riches. Et nous, si tu as mangé 2 ou 3 repas par jour toute la semaine, si tu as un toit qui t'abrite, tu fais partie des gens riches de la planète Terre. Et ces recommandations sont pour chacun d'entre nous. Et j'ai pris qu'on ouvre notre cœur. C'est pas un moment pour se braquer. C'est un moment pour s'ouvrir. Il dit, Seigneur, je veux toute la bénédiction que tu as pour moi. Je veux te suivre pleinement. Je veux te placer en premier. Voici ce que Paul va dire. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Oui, les richesses sont incertaines. Mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonnez-leur de faire le bien. Il dit pas « proposez-leur d'être des riches gentils ». Paul dit à Timothée « ordonnez-leur de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêt à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. » Chacun d'entre nous, c'est pour nous, c'est pour tout le monde, qu'on puisse être riche en bonnes œuvres, généreux, prêt à partager. Puis Dieu voit qu'on fait ça, puis qu'on le fait secrètement, discrètement, puis il y a des bénédictions pour nous alors qu'on fait cela. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ? Verset 15, un roi 17. Elle partit, se conformant à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille. La farine qui était dans le pot ne manqua pas d'huile, qui était et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Ah! Quelque chose de fort là-dedans. Alors que tu relâches ce que tu as pour le donner, tu te places dans une position pour recevoir. Et le contraire est vrai. Si tu retiens, tu retiens Dieu de te bénir. Amen. Je vais demander à Pasteur Seb de venir ici un instant. Si j'ai un beau dollar canadien, c'est moins qu'un euro, là, mais quand même.
C'est toujours ça.
Oui, toujours ça. Alors, Seb, ici, a un dollar. Et il a le poing fermé sur ce dollar-là. Il vit des moments difficiles financièrement, puis il a tellement besoin de ce dollar-là pour juste payer ses factures, puis il est venu au Québec, puis c'est pas facile au Québec, tout ça. Puis il ne peut pas... Je fais des blagues, mais c'est une illustration, d'accord? Donc là, sa main est fermée. Et là, Dieu voudrait le bénir. Mais vu que sa main est fermée, ça empêche Dieu de le bénir. Dieu se dit, oh, j'aimerais tellement ça prendre soin de lui, puis de ses 2 grands garçons, puis de sa femme, puis de pourvoir à ses besoins, puis je voudrais tellement le bénir, puis prendre soin de lui. C'est pas à moi, je l'ai emprunté à quelqu'un dans la salle. J'ai oublié c'est qui, par exemple, là. Donc, non, je pense pas que c'est toi. Et Dieu veut bénir, mais sa main est fermée. Mais ce qui arrive spirituellement, c'est des maths divines, c'est spirituel, c'est toute la Bible, on voit ça. Lorsque Seb décide, « Ah, Seigneur, je vais te donner, je vais relâcher ce que tu m'as déjà donné, relâche », sa main est ouverte. Et sa main est dans une position pour recevoir la bénédiction. Merci, Seb. Vous ne saviez pas que Seb avait des talents d'acteur, hein? Est-ce que tu retiens ou est-ce que tu relâches? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Là, je ne dis pas de tout relâcher, là. Mais de venir devant Dieu et dire, Seigneur, c'est quoi la part pour moi ce matin? J'en suis où dans ma vie de générosité? J'en suis où dans ma vie chrétienne, est-ce que tu es vraiment premier? Est-ce que je suis prêt à t'obéir? Est-ce que je suis prêt à prendre soin d'un frère qui vit un moment difficile? Est-ce que je suis prêt à partager, recevoir, donner généreusement? Et alors que tu le fais, que tu relâches, Dieu multiplie. Alors que cette femme a pris son dernier repas, sa dernière farine, son dernier petit bout d'huile, qu'elle a donné à l'homme de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Automatiquement, le petit pot d'huile est fait, ça s'est rempli. Je suis sûr que le petit garçon, quand il a vu ça, il a fait, oh! Wow! Ça se remplit. Puis là, il regardait après ça la farine. Le sac est vide, là, tout d'un coup. Ça, c'est un bruit de farine qui se remplit dans un sac. La farine qui revient. Puis ça, c'était comme ça à chaque jour. Pendant longtemps, la Bible nous dit. À chaque jour, je prends ce que Dieu me donne, je lui redonne et il me bénit. Et c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Toute notre vie. Amen. Ça fait penser aussi à la manne dans le désert. Dieu, à chaque jour, va pourvoir pour ce que tu as besoin. Ça fait penser aussi à la multiplication des pains dans le Nouveau Testament. Imaginez ceux qui donnaient le pain et là, pouf, le pain qui réapparaît et tu peux le redonner, pouf, il réapparaît et tu peux le donner. Imaginez cette journée-là, les disciples, pouf, 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 le pain qui revole comme ça, puis le poisson. Quand tu ouvres ta main pour donner, partager, aimer, prendre soin, Dieu prend soin de toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de stresser. Dieu veut remplir ce lieu de personnes généreuses et de personnes de foi qui font confiance à Dieu. Je termine ce matin avec la dernière scène, la troisième scène de ce texte-là d'un roi 17. Je vais vous la lire, je vais commenter ensuite. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. Il est mort. La femme dit alors à Élie, « Que veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de la femme et monta dans la chambre à l'étage où il logeait. Il le coucha sur son lit, puis il fit appel à l'Éternel. Il dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? » Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui. Il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusqu'à la maison, il donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors, « Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche est vraie. » Wow. J'ai invité les musiciens à revenir. Incroyable. Extraordinaire. Élie arrive dans cette famille-là. Dieu pourvoit pour qu'il survive à cette crise immense. Tout d'un coup, l'enfant meurt. Et Élie va prier pour cet enfant. La prière d'Élie, pour moi aujourd'hui, est un rappel de notre appel comme croyant à l'intercession. L'intercession, c'est implorer Dieu pour qu'il fasse le miraculeux. Implorer Dieu pour que ce qui était mort reprenne vie. C'est ce qu'on va faire mercredi soir. On va implorer Dieu pour que ce qui est mort reprenne vie. Dieu peut pourvoir à tes besoins, mais Dieu veut aussi redonner vie à ce qui est mort. Et je prie que nous puissions voir cet automne une croissance dans cette église. Que à chaque semaine, que des gens qui étaient morts en dedans, morts spirituellement, puissent être ressuscités par Dieu, puissent reprendre vie. Peut-être que tu es ici aujourd'hui, je fais une parenthèse pour toi, peut-être que tu es ici aujourd'hui, c'est la première fois que tu viens ou ça fait quelques fois que tu es ici ou ça fait longtemps, mais tu n'as pas encore donné ton cœur, ta vie à Jésus. Tu viens un peu comme curieux, tu viens écouter, tu viens voir ce qui se passe, mais tu n'as pas encore pris la décision sérieuse, solennelle, de tout ton cœur de recevoir Jésus dans ta vie. Tu sais, Jésus t'aime. Tu sais, Jésus est mort sur la croix pour te donner la vie. Il a pris tes péchés sur la croix afin que tu n'aies plus à porter les conséquences de tes péchés. Il est ressuscité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre de la vie chrétienne pour donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, je t'invite, si tu es dans ce lieu, que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est peut-être pour une personne, c'est peut-être pour 30 personnes, mais Dieu te connaît. Pour Dieu, il ne voit pas seulement nos corps, nos visages, Dieu voit ce qui se passe en dedans. Et Dieu, lui, sait qui dans ce lieu n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il parle à ton cœur en ce moment, par son Saint-Esprit. Tu comprends peut-être pas tout ce qui se passe, mais il s'approche de toi, il frappe à la porte de ton cœur. Doucement, il ne va pas forcer la porte, il ne va pas défoncer la porte, mais il frappe à la porte de ton cœur. Ce matin, je t'invite à le laisser entrer dans ta vie. Demande-lui pardon pour tes péchés. Place ta foi en lui. Même si tu ne comprends pas tout, dans les semaines, les mois à venir, tu vas voir qu'il y a une vie spirituelle qui va grandir en toi. Ce matin, je t'invite à fermer les yeux un instant, à pencher ta tête en recueillement. Et j'aimerais lancer cette invitation-là. Quelqu'un qui est dans ce lieu, qui voudrait donner sa vie à Jésus ce matin. Je ne demande pas de joindre à l'Église, de changer de religion. Je te demande de faire la paix avec ton Dieu créateur qui t'aime. Donc, si tu es ici aujourd'hui et que tu veux juste faire ce pas de foi et le recevoir dans ta vie, je t'invite à lever ta main bien haut et à dire, moi, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Je ne comprends pas tout. Peut-être qu'il faut qu'on m'explique des affaires, mais je veux recevoir Jésus dans ma vie. Je ne te forcerai pas, c'est entre toi et Dieu. Il y a plusieurs mains qui se lèvent, trois mains qui se lèvent, quatre mains qui se lèvent dans ce lieu. Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Et la main est un symbole de ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever la main et dire, moi, je veux recevoir Jésus. C'est assez ma vie sans Dieu, ma vie à faire mes affaires. Je veux revenir à lui. Je veux demander pardon pour mes manquements. Je veux recevoir sa grâce, son amour. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait lever la main et recevoir Jésus? Je demande une dernière fois. Sens-toi bien à l'aise. Tu peux baisser ta main quand tu l'as levée. Merci pour ta main. Ça valait la peine d'attendre pour toi. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont levé la main avant d'aller plus loin dans la réunion ce matin. Mon Dieu, je te prie pour chaque personne, chaque jeune homme, femme qui a levé la main pour te recevoir dans sa vie. Je te remercie pour eux. Je te prie qu'ils puissent maintenant, Seigneur, saisir que tu les aimes, que tu les pardonnes de leurs péchés, qu'ils sont maintenant, alors qu'ils se tournent vers toi, qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Et Seigneur, tu sois une spiritualité vivante et vibrante pour eux maintenant. Seigneur, je prie que tu marches avec eux dans les prochains jours. Je prie, Seigneur, que ce soit le début d'une aventure extraordinaire pour eux. Tu as des projets pour leur vie, tu as des plans pour leur vie. Tu veux donner un sens à leur vie. Seigneur, merci pour chacun d'entre eux. Bénis-les. Que ce moment soit marqué de toute éternité. Que ce moment soit scellé de toute éternité, Seigneur, comme un jour de vie, comme un jour où plusieurs personnes vont avoir donné leur vie, reçu dans leur vie. Je te prie pour eux, ta faveur, ta bénédiction. Amen. Et pour toute l'Église, est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant ce matin? On va répondre à ce message. Vous savez, on ne veut pas être un auditeur qui vient juste évaluer une performance d'un prédicateur. On veut être quelqu'un qui vient recevoir la parole et l'appliquer dans sa vie. Alors ce matin, on va chanter un chant dans un instant. Et ce qui est formidable, c'est que ce chant-là, les paroles fitent parfaitement avec mon message, ma prédication. Alors on va chanter ce chant, on va prier ces paroles. Et on va dire, Seigneur, tu prendras soin de moi. Seigneur, je place ma foi en toi. Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je veux devenir une personne généreuse, une personne qui donne, une personne qui partage, une personne qui a le cœur sur la main pour de vrai. Est-ce que vous êtes prêts à prier ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à vous approcher de Dieu ce matin? Profitons de ce moment dans la présence du Seigneur.